Bonsoir.
Bonsoir. Il est 19h01. Nous sommes bien sur Radio Canu, c'est l'heure
du Canu Info.
Et ce soir, c'est notre dernière. Et nous, comme c'est notre dernière, on va pas faire comme c'est lèche-cul de la méga combi la semaine dernière.
Qui ont doublé leur temps. Nous, on va plutôt le diviser par deux.
10 voire même.
Non, tu vas voir. Et on va commencer par cette petite brève qui nous dit que hier matin, Greenpeace s'est amusé avec un avion télécommandé et un drone à les envoyer tout bêtement dans les murs de la piscine de la centrale du Bugey. Alors la piscine, on peut croire qu'ils sont allés embêter les cadres qui prenaient leur bain. Et bien pas du tout, la piscine c'est un truc, s'il n'y avait pas, la centrale pèterait très très vite parce que c'est l'eau qui sert à refroidir toutes les installations. Si elles ne refroidissent pas, elles chauffent. Si elles chauffent, elles crament. Si elles crament, vous et moi, la centrale du Bugey, vous et moi, on n'en a pas pour longtemps à vivre derrière. Alors Greenpeace a envoyé un petit avion téléguidé, suivi par un drone déguisé en super, enfin avec qui portait un grand vêtement de Superman. Ils se sont juste heurtés au mur de la piscine. Alors bien sûr, comme EDF l'a souligné, ça veut rien dire. Un drone ou un avion télécommandé, modèle réduit, c'est pas des menaces pour la sécurité. Mmh. Évidemment, c'est pas des menaces pour la sécurité tant qu'ils sont pas, par exemple, chargés d'un explosif ou quoi que ce soit dans ce genre-là.
Sachant qu'ils ont, quand même communiqué Greenpeace sur le fait qu'ils étaient allés précisément à un endroit du mur où un ancien rapport avait dit que ce mur-là, cet endroit était un peu plus fragile qu'un du coup rapport un peu public.
Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que EDF a porté plainte contre Greenpeace et pas contre eux-mêmes parce que.
Alors, vous en avez certainement entendu parler. Sinon, un petit rappel des faits. Hier soir, Abou Bakar a été tué par la police lors d'un contrôle d'identité dans le quartier de Breil à Nantes. Comme d'habitude, les versions s'affrontent et comme d'habitude, la version de la police semble bien fragile. Une unité de CRS contrôle Abou Bakar alors seul dans sa voiture. Il s'arrête puis décide de reculer pour fuir. Peut-être parce qu'il se savait recherché pour des vieilles histoires de vol en bande organisée quand il habitait à Paris. En tout cas, jusque-là, tout le monde est d'accord sur le fait qu'à un moment, il a reculé. Sauf que pour les témoins sur place, il a reculé. Là, un CRS a pointé son arme de service et lui a tiré dessus, le touchant à la carotide. Puis, la voiture a fini dans un mur. Il mourra quelques minutes plus tard. La version policière, elle, diffère peu. Mais pour eux, il a reculé sur un CRS, le blessant légèrement au genou. Alors, on parle bien de blessure, un terme utilisé donc par le directeur départemental de la sécurité publique. Oui, le DDSP, là, c'est un peu l'espèce de chef rattaché à la préfecture de la police sur les territoires. Qui était présent sur place le soir même. Qui s'est dépêché de venir sur place le soir même. Ce qu'un de ses collègues de ce CRS a pris pour une menace imminente et a donc décidé de tirer sur Abou Bakar sans sommation, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que même dans le pire des scénarios, c'est-à-dire le scénario des flics, celui qui est censé innocenter complètement leurs collègues, c'est-à-dire que là, on parle quand même juste d'une voiture qui a reculé pour fuir un contrôle d'identité. Alors Abou Bakar, il semblerait, d'après les premiers trucs qu'on voit dans la presse, qu'il a eu des histoires à Paris, qu'il a fait des trucs du genre vol en bande organisée, ce qui veut tout dire et rien dire, bref on sait pas trop, mais voilà, à Paris, qu'il est venu à Nantes un peu pour se mettre au vert aux proches de sa famille il y a de ça quelques mois. C'est possible que ce qui lui soit passé par sa tête, dans la tête, c'est que là, à un moment donné, il semblerait que les flics et sa voiture, par exemple, a bipé, c'est aussi pour ça qu'il a été contrôlé. Ce qui lui soit passé par la tête, c'est de dire bon, en fait, là, juste, j'ai pas envie d'être emmerdé, j'ai pas envie de me faire attraper pour ça, juste, hop, je me barre et voilà. Sans faire trop de mal, parce qu'a priori, le flic qui était blessé au genou, en tout cas, n'est pas à l'hôpital, il a pas de la chirurgie. Enfin, je veux dire, un genou face à une voiture, on imagine les dégâts que ça peut faire. Là, voilà, il semblerait qu'il l'a effleuré, voire rien du tout. En tout cas, plusieurs habitants témoignent. Les policiers lui demandent, là je cite un habitant qui était témoin de la scène, lui demandait plusieurs papiers d'identité. C'est peut-être ce qui a mis un peu la puce à l'oreille à Aboubakar, qui faisait se dire que ça allait durer plus longtemps que prévu. Le contrôle a duré longtemps, peut-être 30 minutes. À un moment, il a pété les plombs et a enclenché une marche arrière. Il n'y avait personne derrière la voiture, personne n'a été percuté. L'un des policiers s'est mis de côté et a ouvert le feu. Il était juste à côté de lui, il aurait pu tirer en l'air ou dans un pneu. La voiture a fracassé un muret. Quand ils ont compris qu'il était mort, le policier qui a tiré s'est mis à crier « Je l'ai tué, je l'ai tué ». Une autre personne témoigne, le coup de feu est parti quand la voiture en marche arrière a percuté un autre véhicule, rapporte la personne. La voiture a continué son chemin pour s'encastrer dans un muret. Les policiers ont couru, armés, armes à la main, et l'ont mis en joue avant de comprendre qu'ils ne bougeaient plus. Ils avaient l'air complètement affolés. Donc suite à ça, dans trois quartiers de la ville, Breil, Malakoff et les Dervalières, des habitants se sont descendus dans la rue pour affronter les flics et cramer tout un tas de trucs qui leur passaient sous la main. Plus de 200 flics étaient mobilisés hier soir. Il y a fort à parier qu'il y en ait tout autant dans les soirs à venir. Affaire à suivre.
Cet après-midi a eu lieu un rassemblement de soutien aux mineurs isolés étrangers à Lyon. Le rassemblement se tenait devant les bâtiments de la métropole, donc c'est ce qu'on appelait avant la Courly, ou le Grand Lyon, c'est ce bâtiment rue du Lac. Et ce rassemblement était organisé en particulier par le collectif Jamais sans toi. Alors, il y a quand même tout un contexte à ce rassemblement qui... Quand des mineurs isolés, étrangers, c'est-à-dire des gamins qui arrivent en France sans leurs parents et qui ne sont pas français, arrivent à Lyon, ces mineurs doivent se présenter à Forum Réfugiés. Là, on leur donne rendez-vous avec un ou une assistante sociale pour passer une évaluation afin de déterminer leur minorité. Alors, bon, on a déjà parlé, on pourra reparler d'autres fois de ces évaluations, mais en gros, les critères sont parfois légers pour dire que finalement ils sont adultes et que c'est pas la peine de les prendre en charge. Mais théoriquement, si ils sont mineurs, ils doivent être pris en charge par les pouvoirs publics. Nourris, logés, habillés et envoyés à l'école. Bon, de toute façon, cette structure ne peut accueillir que 25 jeunes, c'est-à-dire que c'est rien du tout par rapport au nombre de personnes qui arrivent à Lyon. Et ce qui fait que la plupart du boulot des assistants, assistantes sociales de Forum Réfugiés consiste surtout à les remettre à la rue et puis à leur filer rendez-vous pour dans très longtemps, pour à ce moment-là leur dire non, en fait, vous êtes majeur. Et donc, c'est de toute façon, c'est clair que à Lyon, il y a plusieurs dizaines de mineurs isolés qui dorment à la rue chaque soir, juste dans la ville de Lyon. Alors les gens qui organisent le rassemblement disent ce que nous demandons au pouvoir public, à la métropole en particulier, c'est avant tout que de réels moyens en termes de personnel, de locaux et de budget soient mis en place pour assurer la réalité de la situation migratoire à Lyon. Rappelons que la métropole doit héberger ses mineurs isolés, étrangers et étrangères. Et ça, pour le coup, c'est un truc, la loi est hyper claire là-dessus. Après, on va voir aussi que des fois, des lois sont claires, mais qu'il y a quand même moyen pour l'État de bidouiller avec. Mais
en souvent, quand elles sont très contraignantes pour l'État.
C'est ça. Mais en tout cas, là, en l'occurrence, théoriquement, quand un gamin est en France et qu'il est sans ses parents, dans la mesure où ce gamin a moins de 18 ans, c'est qu'il y a quand même vraiment une obligation forte pour l'État français, et comme pour tous les États signataires de la Convention des droits de l'enfant, blablabla, dont la France est évidemment signataire, de prendre en charge le gamin en question. La réalité est tout autre.
D'où tellement forte que d'où la mise en œuvre de tests type test osseux, ou enfin tout un tas de trucs dont tu as parlé tout à l'heure qui sont un peu de l'ordre du... Je sais pas, de...
Alors les tests osseux aux dernières nouvelles ne sont plus recevables suite à un jugement du tribunal administratif. Donc pendant des années et des dizaines d'années, on a fait ça. On a fait des radios du poignet des gens. Et là, des toubibs sont venus se pencher sur les radios pour dire non, 19 ans et demi. En fait, tous les scientifiques un peu sérieux disaient qu'il n'y avait aucun moyen de déterminer l'âge de quelqu'un comme ça, mais les toubibs payés par la préfecture y arrivaient très bien. Quand même, finalement, petit à petit, les tribunaux administratifs ont fini par dire qu'en fait, non, vraiment, ça ne marchait pas, ce truc-là. Donc maintenant, ils ont recours à des pratiques qui valent très, très largement les tests osseux, comme « Alors, mon petit, raconte-moi comment t'es arrivé en France ». Et là, à la fin du récit, eh ben dis donc, c'est quand même dingue qu'un gamin puisse vivre autant de choses que ça, et en plus les raconter de manière cohérente. Tu dois pas être un gamin. En fait, je pense que t'as 21 ans pour parler comme ça. Et c'est vraiment un argumentaire, hein, c'est que le récit du parcours migratoire est trop cohérent pour qu'on puisse considérer qu'il est mineur, par exemple. C'est...
Mais attention, s'il n'est pas assez cohérent...
dans ce cas, c'est qu'il se fout de la gueule du monde. Oui, non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, pour déclarer que des enfants ne sont pas mineurs, les moyens sont infinis et peuvent atteindre des degrés de mauvaise foi qui sont assez terribles. Dans la mesure où, effectivement, c'est les collectivités territoriales qui sont censées prendre en charge ces gamins et qu'elles n'ont aucune envie de payer pour des gamins étrangers, quoi. Alors tout ça se passe dans un contexte où de toute façon c'est quand même la merde aussi beaucoup du côté de ce collectif Jamais Sans Toi, mais pas seulement, c'est vraiment la merde de l'hébergement à Lyon et de l'hébergement des personnes disons en galère de papier, les personnes qui sont en attente de réponse sur le droit d'asile, les personnes qui sont déboutées du droit d'asile, etc, etc. Et du coup, c'est aussi le moment où, où des parents d'élèves ont mis en place des réseaux d'hébergement solidaire chez des particuliers, tellement les pouvoirs publics sont incapables d'héberger les gens. Ah oui, en fait, on saute un peu du coq à l'âne, mais c'est que là, on parle aussi du collectif Jamais Sans Toi, qui est extrêmement actif dans ces derniers jours d'année scolaire. Le collectif Jamais Sans Toi, c'est cet ensemble de parents d'élèves, on en a déjà parlé souvent, on en a reçu ici, cet ensemble de parents d'élèves qui sont pas très contents que dans l'école où vont leurs gamins, il y ait aussi des gamins qui, le soir, dorment dehors, sur un coin de trottoir ou dans une bagnole, et qui organisent des actions pour loger pour essayer de faire en sorte que la préfecture s'occupe de loger les familles d'enfants qui vont dans la même école que leurs gamins. Souvent, ces actions passent par des occupations d'école. Et donc, devant la galère, du coup, ils se mettent à héberger les gens chez les parents, mais ils trouvent que ça va pas, quoi, que ça suffit plus. De toute façon, il y a aussi trop de gens, trop d'élèves et de parents d'élèves qui sont à la rue. Et donc, un collectif de personnes solidaires s'est aussi créé dans l'espoir de réquisitionner des bâtiments vides qui peuvent héberger du monde, et là, en particulier, enfin, tout ça est un peu en lien, mais du coup, là, on reparle à nouveau de mineurs isolés étrangers, et donc de gens qui à des moments, ont ouvert des squats, et il y a encore eu ça la semaine dernière, et en tout cas, le squat a été expulsé hyper vite. Cependant, depuis le mois de mai, nous dit le collectif Jamais Sans Toi, un acharnement administratif et policier redouble de violence envers ces lieux d'accueil. Tous les bâtiments réquisitionnés ont été expulsés par la police, ainsi qu'un foyer qui avait été mis à disposition par la métropole, qui elle-même voyait bien qu'elle ne faisait pas ce qu'elle était censée faire. Du coup, à un moment, ils avaient plus ou moins laissé à disposition un foyer. Tout ça a été dégagé. Alors, quand même, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se relire encore une fois, mais peut-être que ça sera la dernière fois qu'on le fera dans ce Canu Info du mercredi, la fameuse loi Moll, et je vous expliquerai après pourquoi ça sera peut-être la dernière fois. Qui est cette loi qui avait été votée à l'époque de Sarkozy, hein. C'est, alors pour le coup,
le plus gauchiste des présidents.
Le plus gauchiste de nos derniers présidents, mais qui est une loi qui dit que les gens qui le demandent ont le droit d'être hébergés, point final. Et donc, cette loi, a priori, vous allez voir, c'est pas une loi... elle est claire. Elle est claire. Voilà. Elle est clairement écrite. Toute personne sans abri, en situation de détresse médicale, psychique et sociale... Alors ça, des moments, ça a été des combats devant les tribunaux pour essayer de prouver une situation de détresse médicale, psychique et sociale, mais enfin... Donc, toute personne sans abri, en situation de détresse, a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. Donc toute personne qui est dans cette situation de détresse a accès à tout moment à ce dispositif. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement, ou par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs, et d'être orienté vers tout professionnel ou toute structure susceptible de lui apporter l'aide justifiée par son état. Blablabla. Bla, bla, bla. Et donc, tout ça pour aller vers des solutions plus durables. L'article suivant nous dit « Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer dès lors qu'elle le souhaite. » C'est-à-dire, une fois que vous êtes hébergé, vous avez le droit de rester hébergé jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à sa situation. Ok, la loi est claire. Eh ben non, figurez-vous que la loi n'est pas si claire que ça. Alors en fait, cette loi a jamais servi à rien, mais en tout cas pendant quelques années, on pouvait toujours l'envoyer à la figure des représentants de l'État qui mettaient des familles dehors. Disons que ça défoulait plus qu'autre chose. Elle a jamais été respectée par les pouvoirs publics. Hein. Je veux dire, c'est une loi, mais elle n'est pas respectée par les pouvoirs publics. Mais disons qu'on se sentait un peu dans notre droit, presque dans une sorte de légalité républicaine, si par exemple on ouvrait un squat pour loger des gens qui n'avaient pas de maison, puisqu'on disait, nous, on fait toujours un peu plus un truc qui correspond à la loi que, par exemple, la préfecture. Bon, dites-vous bien que tout ça, c'est terminé. Et c'est pour ça qu'on n'aura peut-être plus l'occasion de vous lire cette loi, c'est qu'elle sert de toute façon plus à rien en aucune manière. Le Conseil d'État et le tribunal administratif y ont mis bon ordre. Et donc, tout ça en deux parties. C'est-à-dire que, un, pour héberger des gens, les pouvoirs publics n'ont finalement pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Sans précision. C'est-à-dire que s'ils disent « Non, non, mais en vrai, on a fait un effort. » En fait, ça suffit.
Ah ouais.
C'est ça. S'ils disent non, mais nous, on a fait ce qu'on pouvait. Alors, justement, là, on avait un garage. Bon, maintenant, on a mis 3 personnes dedans. Pour les autres, désolé, il n'y a plus de place. Ça suffit. Obligation de moyens, pas obligation de résultat. Et d'un autre côté, le Conseil d'État a dit de toute façon que, ouvrez les guillemets, les déboutés d'asile n'ont pas vocation à bénéficier de l'hébergement d'urgence. Ah ouais ? Mais alors, attendez. Je vous ai dit qu'on relirait pas la loi. On va relire juste deux tout petits groupes de mots. Toute personne sans abri, à tout moment. Ben non, c'est fini. Les toutes personnes, ça ne concerne plus les déboutés du droit d'asile, puisque de toute façon, ils doivent dégager. Donc voilà, cette loi est vraiment dégagée, une bonne fois pour toutes. Du coup, c'est en toute légalité maintenant que la préfecture fixe des critères pour qui elle va héberger, qui elle ne va pas héberger, les modifie, fait des restrictions, elle fait des exceptions, blablabla. Donc, au point où on en est des critères de la préfecture du Rhône, les familles à héberger a priori, s'il y a de la place, c'est les familles avec enfants de moins d'1 an et ou avec une femme enceinte de plus de 6 mois. Les autres circulaient, il n'y a rien à voir.
Hein ? C'est précis et restrictif quand même.
C'est ça. Donc si vous avez un gamin qui a moins 3 mois, ou enfin entre moins 3 mois et 1 an, là vous avez une chance. Autrement, c'est même pas la peine de tenter le coup. De toute façon, il y a des places d'hébergement d'urgence pérennes qui sont annoncées à la sortie du plan froid. Le plan froid, fin mars ? Mi-mars, fin mars ?
21 mars.
21 mars. Donc des places d'hébergement d'urgence pérennes annoncées à la sortie du plan froid. A priori, elles vont bientôt être créées, mais enfin quand même pas encore. Ça fait donc avril, mai, juin, ça fait 2 mois et demi. Voilà, la préfecture, plutôt, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fout les gens dehors. Est-ce qu'on parle du 26 juin, 7h du matin, la police qui se présente au foyer de la Sarah et qui donne 3 heures aux 4 familles qui se trouvent encore dans ce foyer pour rassembler leurs affaires et vider les lieux. Il faut dire que la prise en charge était terminée. Juste, on avait dit aux gens, maintenant vous dégagez. Et puis, ils avaient dit, non, mais il y a une loi qui dit que la continuité de l'hébergement, blabla. Et là, du coup, c'est la police qui est venue la fois suivante et qui leur a dit, dans 3 heures, de toute façon, si vous n'êtes pas dégagé, on vous dégage. Là, il y avait encore 13 mineurs qui, eux, avaient trouvé refuge dans ce foyer suite à l'expulsion d'un squat précédent, le squat de la cabane, qui était un squat qui avait été ouvert exprès pour loger des mineurs isolés étrangers. Et alors, un certain nombre de ces mineurs, des mineurs qui habitaient dans le squat de la cabane, c'est des mineurs qui avaient été évalués sur leur minorité en leur disant non, vous n'êtes pas mineur. Donc, de toute façon, pas d'hébergement, pas de prise en charge dégagée. Et donc, des gens avaient ouvert un squat, blablabla. Donc, ce squat s'était fait expulser. Ces gamins s'étaient retrouvés eux aussi au foyer de la Sarah avec les 4 familles dont on parle. Dans la foulée, les flics, une des familles s'est vue remettre une OQTF par les flics, donc une obligation de quitter le territoire français. Tant qu'à faire de mettre les gens dehors, autant les mettre dehors complètement. Ça, c'était le 26 juin. Pourquoi est-ce que j'ai commencé par le 26 et pas par le 14? J'en sais rien. Mais le 14, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la police aux frontières sont venus déloger 9 familles qui étaient restées aussi dans un foyer malgré la fermeture du foyer. Mais alors, en fait, j'ai fait des petits copier-coller qui font que je ne sais plus de quel foyer je parle. Le 28 juin, un squat à Saint-Fond a été expulsé. Ce même jour, la PAF, donc la police aux frontières, est intervenue au centre d'hébergement de la caserne Chabal à Bron pour distribuer des obligations de quitter le territoire à 3 familles. Tiens, une fois que vous avez ça, vous savez que de toute façon, si vous restez, on viendra vous chercher. Donc, il y a des chances que vous dégagiez d'ici. La plupart de ces familles ont de toute façon été orientées vers ce dispositif d'hébergement départ volontaire, le départ. Alors ça s'écrit D-P-A-R avec 3 majuscules, mais il faut bien le lire comme départ. Ça, c'est un truc inventé par la préfecture du Rhône qui date de début 2017.
Ouais. Qui est géré par l'OFI.
Qui est géré par l'OFI et qui est en gros que des familles sont hébergées, des familles qui à ce moment-là sont déjà hébergées d'une manière ou d'une autre. Alors généralement parce qu'il y a un gamin qui vient de naître ou qui va naître dans une seconde. Mais ces familles-là, on leur dit « Bon, ben en fait, votre prise en charge prend fin. Alors là, maintenant, on va vous dégager. » Alors une fois que la famille commence à paniquer, on leur dit « Ah, autrement, ben écoutez, on vous donne un rendez-vous pour envisager quand même s'il n'y a pas moyen de faire un truc. » Là, elles vont au rendez-vous et là, on leur dit « Bon, alors si vous voulez, on peut continuer à vous héberger. Un hébergement pour 45 jours, éventuellement renouvelable une fois. Signez ici, ici et ici. Et oui, bah alors là, il y a cette petite clause, mais si tout va bien, vous parlez de façon tellement mal français que vous n'allez rien comprendre. Cette petite clause qui dit que c'est un hébergement en attente qu'on organise votre retour au pays, donc votre départ de France. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une solution qui ressemble à un centre de rétention, mais qui coûte moins cher parce qu'il y a moins de surveillance. En sachant que les familles qui sont placées dans ce dispositif sont assignées à résidence, donc elles doivent aller signer au commissariat 2 fois par semaine.
Il y avait eu au tout début là, quand ce truc a été créé, il y avait des associations, mais du coup j'imagine c'est au tout début et ça existe encore, mais les associations qui suivaient les familles ou les personnes qui rentraient dans ce truc là avaient pour habitude, si les familles le désiraient, de les accompagner dans tout ce qui était un peu rendez-vous officiel, parce qu'on sait que dans ce genre de rendez-vous les crapuleries sont mises, et là c'était assez clair que le personnel de l'OFI disait il est hors de question qu'il y ait la moindre association qui rentre et qui soit dans les réunions.
C'est ça, association ou traducteur indépendant, parce que ça aussi dans un de ses premiers rendez-vous il y a une personne qui parlait serbo-croate qui était allée avec la famille, et là il y avait un traducteur officiel qui, et du coup il était hors de question que quelqu'un d'autre puisse checker la traduction de ce traducteur officiel. C'est vraiment un truc qui a aussi été fait dans une certaine opacité, en tout cas vis-à-vis des gens qui bossent avec les personnes concernées. Là on en était à ce squat de Saint, à la caserne Chabal, où les gens au QTF et éventuellement, si vous voulez ne pas vous retrouver à la rue, on a ces places en dispositif départ. Avec tous ces gens qui se retrouvent mis à la rue et donc remis à la rue, on a un instituteur de l'école Gilbert Drou, qui est une des écoles qui sont souvent mobilisées quand même depuis des années et des années, et qui explique au reporter de rue 89, qui lui dit c'est la première fois qu'on se mobilise autour d'enfants qui ont été hébergés. Jusque là, les années précédentes, les familles pour lesquelles on se mobilisait et qui à un moment arrivaient à rentrer dans le plan froid, restaient ensuite sur des places pérennisées. Donc avant, les familles, en tout cas les familles qui étaient portées par un mouvement militant, une fois qu'elles avaient mis un pied dans un hébergement, c'était gagné quoi. Maintenant c'est plus gagné, il ne suffit pas d'arriver à mettre un pied dans un hébergement quand c'est l'hiver, puisque de toute façon dès que l'hiver s'arrête, dehors. Donc, occupation d'école. Hein. Léon Jouot dans le 3e arrondissement, Robert Doisneau dans le 1er, Gilbert Dru dans le 7e, Ernest Renan à Villeurbanne, Marc Bloch dans le 7e, qui est occupé depuis le 25 mai au soir, Et donc Marc Bloch, c'est une des écoles qui ont été occupées suite à l'expulsion du foyer de la Sarah. Et en l'occurrence, Marc Bloch, c'est une mère seule avec ses trois enfants de 4, 6 et 8 ans qui avaient été dégagés de ce foyer. Il y a aussi d'autres écoles où il y a des élèves qui n'ont pas de logement, mais qui ne sont pas occupés pour autant parce que les parents, selon plein de contextes locaux, quoi, les parents pensent qu'ils ne vont pas y arriver, qu'ils ne sont pas assez nombreux, éventuellement ce n'est pas facile avec l'administration de l'école. Enfin, il peut y avoir des tas de raisons, mais ça n'empêche pas les gens de se bouger pour autant. Donc goûter solidaire, donc éventuellement cotisation entre parents pour payer des nuits d'hôtel, éventuellement hébergement solidaire des familles, c'est-à-dire vraiment le truc où la famille va habiter une semaine chez telle famille, une semaine chez telle famille. Alors on imagine bien que ce n'est pas du tout confort, ni pour la famille qui reçoit, ni et encore carrément pas du tout pour la famille qui est hébergée, de savoir que toutes les semaines, tous les trois jours, quand il y a une soirée, quand les gens veulent recevoir la cousine machin ou je sais pas quoi, doivent changer de maison avec toutes leurs affaires, juste à chaque fois, se sentent tout le temps chez quelqu'un d'autre. C'est sûr que c'est pas confort. Des fois, c'est quand même mieux que d'être dehors. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, c'est les vacances scolaires à la fin de la semaine. Alors là, bien sûr, les parents d'élèves s'agitent, écrivent des lettres, passent des coups de fil, la préfecture, la métropole, le machin, le truc, que dalle. Ah si, tiens, on a des places en dispositif départ. Donc ça, normalement, la plupart des familles refusent, d'autant plus si elles sont un petit peu conseillées. Et ben voilà, du coup, il y a des petites solutions à droite à gauche selon les cas. À l'école Douaneau, sur les pentes de la Croix-Rousse, une famille albanaise qui occupait l'école a dû être séparée. La mère de famille enceinte de 5 mois et demi est hébergée avec ses enfants par la métropole dans le cadre de la protection de l'enfance dans un hôtel à Saint-Fons. Le père ne peut de toute façon pas y loger. La mère de famille doit toujours faire une heure de trajet pour emmener ses enfants à l'école. Alors, une instit de l'école, alors elle, voilà ce qu'elle raconte à rue 89, enfin, c'est l'interrogation qu'elle exprime dans rue 89. Elle dit, cette famille aurait pu être prise en charge dans un des hôtels du centre de Lyon, qui ont des conventions avec la préfecture, du coup il y en a des hôtels qui servent à ça. Au lieu de ça, la métropole lui a trouvé un hôtel à Saint-Fons, et pour seulement 10 jours. On a vraiment l'impression que c'est une volonté de maintenir les personnes dans l'insécurité permanente, pour qu'elles puissent pas dire qu'on est bien accueilli en France. Voilà, les parents d'école et les parents d'élèves et enseignants de cette école n'ont pas de perspective pour loger la famille cet été. Seule bonne nouvelle pour la famille, c'est là, les parents ont été régularisés. Donc pas de maison, mais des papiers. À l'école Gilberdo et à la Guillotière, l'occupation a été levée. La famille, qui était une famille bosnienne, a aussi été régularisée récemment. Et le père a signé un CDI, trouvé un logement social via Grand Lyon Habitat. Du coup, voilà, des petites solutions. Malgré tout, tout ça, bien sûr, grâce à la mobilisation des parents. Mais avant d'emménager de toute façon dans ce logement social, et ben c'est malgré tout des parents d'élèves qui se sont cotisés pour payer des nuitées d'hôtel afin que la famille arrête de dormir dans l'école, mais qu'elle ne dorme pas non plus dans la rue en attendant ce logement. Bon voilà, là on parle de solutions dans deux écoles. Les écoles Douaneau, Marc Bloch et les autres n'ont aucune solution pour l'été. Alors là, ce qui risque de se passer, c'est de faire tourner les familles dans les appartements vides d'autres parents d'élèves pendant qu'ils partent en vacances. Autant dire, la lutte n'est pas terminée.
Ah bah alors, c'est fini.
Mais c'est ça, mais ce qui est terminé par contre, on dirait, c'est les Canu Info du mercredi pour l'été.
Et du coup, le qu'est-ce qu'on peut vous dire comme agenda? S'il y a la kermesse du 14 juillet en soutien à la traditionnelle fête de soutien à ce merveilleux site qui est rebellion.info. Ça commence cette année à partir de 16h. C'est dans un lieu comme d'habitude maintenant tenu secret. Il faut envoyer un mail à, enfin, soit vous en parlez à vos potes et ils savent la réponse, soit nous-mêmes ici nous ne l'avons pas, soit vous envoyez un mail à contact@rebellion.info en disant ah on pourrait avoir là où ça se passe, et dans des jours assez proches de la date on vous envoie le lieu où ça se passe. Voilà, tout ça pour que le lieu soit pas emmerdé en gros. Voilà, donc c'est le 14 juillet et c'est dans Lyon ou ses environs. Voilà, et ben, voilà, plus qu'à vous laisser cet été et vous souhaiter des bonnes vacances pour celles et ceux qui en ont.
Et puis on revient en septembre pour une rentrée brûlante.
Et merci de nous avoir écoutés toute cette année.
Ciao.